Encore une fois, bonjour à tous et bonjour particulièrement aussi à ceux qui nous suivent par Zoom. Nous allons ce matin laisser une large part à la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Proverbes. Nous commençons par lire au chapitre 10. Du verset 18 au verset 22. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons au chapitre 12, le verset 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Nous allons au verset 19. Même verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Au chapitre 13, le verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Au chapitre 18, un peu plus loin. Versets 7 et 8. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Le verset 13. Celui qui répond, avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et s'attire la confusion. Nous allons cette fois au chapitre 26, le verset 28. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Puis un verset dans le chapitre 31, il s'agit de la femme vertueuse, et au verset 26, il est dit ceci d'elle, « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et les instructions aimables sont sur sa langue. Amen. » Seigneur, toutes les recommandations de ta parole nous voulons les serrer précieusement dans notre cœur. C'est au travers d'elles que tu veux agir puissamment par ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies, afin de nous mettre à l'abri de tout ce qui pourrait causer de la peine, de la tristesse, tout ce qui pourrait nous meurtrir. Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants et nous avons pu, les uns et les autres, t'exprimer notre amour et notre gratitude pour ce que tu fais en faveur de chacun d'entre nous. Et nous sommes conscients, Seigneur, de tous les progrès que nous avons encore à faire. Et je te prie de nous venir en aide. Permets que ces quelques minutes de méditation de ta parole soient bénéfiques pour tous. J'ai besoin de toi. Mes frères et sœurs aussi ont besoin de toi. Nous sommes dans un monde où, Seigneur, la haine règne, où le mensonge règne. Seigneur, permets-nous d'être vrais et d'apporter les paroles qui apportent la guérison. Seigneur, viens-nous en aide. Nous comptons sur toi et nous te rendons grâce dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur. C'est quand on lit la Bible avec attention qu'on s'aperçoit de la place qui est réservée en elle à la parole qui sort de notre bouche et à laquelle nous devons d'une manière permanente, d'une manière constante, prendre garde. Il y a plus de 100 versets seulement dans le livre des Proverbes qui nous met en garde contre tout ce que nous pouvons dire avec une certaine légèreté et qui finit par blesser d'abord nos cœurs quand nous prononçons ces paroles, mais aussi qui peuvent être, pour ceux qui les écoutent, eh bien, une occasion de tristesse, de souffrance et de peine. D'ailleurs, certainement vous le savez aussi bien que moi, par la parole, certains hommes ont obtenu des choses extraordinaires et ont même permis que le cours de l'histoire soit changé. C'est par des paroles émouvantes que Thomas Jefferson a permis que les États-Unis connaissent l'indépendance. Mais c'est aussi par des paroles terribles et redoutables qu'Adolf Hitler, eh bien, a provoqué ce que l'on appelle la Deuxième Guerre mondiale. Et nous sommes dans une période où les uns et les autres, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais nous pouvons trembler parce qu'il se passe dans un certain coin de notre planète des choses qui nous font frémir et il suffirait d'une parole prononcée d'une manière négative pour que éclate encore une fois une véritable révolution et une guerre terrible et redoutable. Mais au-dessus de tout, il y a Dieu qui veille. La parole nous a été donnée par Dieu comme un moyen, non seulement de nous adresser à lui, d'avoir le dialogue avec notre Dieu, mais aussi pour que nous puissions, dans nos relations les uns avec les autres, être des canaux de bénédiction. En fait, que sont les paroles? Voyez-vous, la parole est la concrétisation, je dirais l'expression de notre pensée. Ce que nous pensons, ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, nous le traduisons par le moyen de paroles. Certainement, vous le savez, il est possible de connaître le caractère de quelqu'un par le moyen de l'écoute de ses propres paroles. La Bible dit que ce qui sort de la bouche, c'est l'expression de ce qu'il y a dans notre cœur. Selon ce qu'il y a dans notre cœur, un bon trésor ou un mauvais trésor, de notre bouche va sortir soit des paroles qui apportent la bénédiction, soit des paroles qui peuvent blesser. Je le répète, elles sont l'incarnation, les paroles, de nos idées, l'expression de nos pensées. Le langage est un instrument et le véhicule de nos pensées, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, la Bible nous met en garde contre l'utilisation de la parole pour blesser quelqu'un. Et tout en vous adressant ce message ce matin, je me rends compte que finalement, personne ici n'échappe à ce jugement de la parole de Dieu. Car je voudrais bien savoir qui pourrait se lever ce matin et dire qu'il n'a jamais péché par sa parole. Et pourtant, la Bible nous dit d'une manière très claire que le Seigneur va nous juger non seulement au niveau de nos pensées, mais au niveau des paroles que nous aurons prononcées. C'est la raison pour laquelle, des fois, nous agissons, nous nous comportons avec une certaine légèreté, sans penser que Dieu connaît tout, que Dieu voit tout, et qu'un jour nous serons aussi appelés à rendre des comptes à notre Dieu pour toutes les pensées vaines, inutiles, et pour toutes les paroles prononcées qui, finalement, n'ont pas contribué à apporter une bénédiction, à apporter ce que Dieu voudrait que nous communiquions par ce moyen-là. Je lis par exemple dans le livre de Job, au chapitre 4 et au verset 4, que l'un de ses amis, qui pourtant n'a pas été pour lui un moyen de bénédiction, puisque la parole de Dieu déclare que tous ses amis, eh bien, n'ont pas parlé d'une manière juste, d'une manière droite. Mais cet ami, c'est le premier d'ailleurs qui s'est exprimé et qui a parlé à Job dans ce moment où il était dans une grande souffrance, lui rappelle ce que Job faisait par le moyen de ses paroles. Et je lis ceci, « Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. » Dans le psaume 15 et le verset 1er, il est dit « Une parole douce calme la fureur. » Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50 et au verset 4, il est question du Messie, c'est-à-dire de celui qui est notre exemple, de celui qui est notre modèle. Et concernant Jésus, il parle de cette manière-là et il dit « L'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir celui qui est abattu. » Nous avons donc besoin de demander au Seigneur que sa grâce soit notre partage jour après jour. Dans un monde où il y a tellement d'agressivité, vous avez certainement constaté combien il y a de l'aigreur dans les cœurs, une colère sourde, il y a beaucoup d'amertume autour de nous et notre société se trouve dans une situation telle que les cœurs sont rapidement mises à l'épreuve et puis par le moyen des paroles, ils blessent. Nous sommes étonnés de voir tout ce que l'on peut voir à l'heure actuelle, mais tout ce que l'on peut entendre aussi. Et je pourrais dire que les paroles ont un potentiel suffisant pour modifier la vie de ceux qui les entendent. C'est la raison pour laquelle nous devons demander à Dieu la grâce de pouvoir être doux et humble de cœur, afin que de notre bouche sortent des paroles qui édifient, qui bâtissent, qui construisent. C'est terrible de pécher par la bouche. Par quel moyen ? Bien, la parole de Dieu nous parle de la diffamation. La parole de Dieu nous parle de la calomnie. La parole de Dieu nous parle aussi de l'hypocrisie. Et puis, j'ai constaté quelque chose qui paraît paradoxal. En lisant l'évangile de Matthieu au chapitre 12, par exemple à partir du verset 34, écoutons Jésus parler. Vous avez entendu tout à l'heure, il est dit des paroles douces calment la fureur. Puis comme un paradoxe, écoutez Jésus parler. Il dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Dites-moi, frères et sœurs, imaginez quelqu'un du haut de cette estrade qui s'adresse à l'auditoire en parlant et en utilisant les paroles que Jésus a utilisées pour s'adresser à ceux qui l'entouraient, aux hommes religieux en particulier de son époque. En utilisant ces mêmes termes. Écoutez, je suis resté que quelques mois parmi vous. Mais si aujourd'hui je vous disais « race de vipère », à la fin de la réunion, vous diriez « frère Ferris, le plus vite possible vous partirez, le mieux ce sera ». Pourtant, Jésus lui-même s'est adressé à cette génération. Qu'en voyez-vous, la douceur ne doit pas se confondre avec l'hypocrisie. Et Jésus lui-même ici sait très bien à qui il s'adresse, à des hommes qui ont vraiment un caractère particulier. Eux ne sont pas ignorants de Dieu. Eux connaissent certains principes qui sont inscrits dans l'Ancien Testament. Ils ont une pratique religieuse, mais cette pratique-là est empreinte d'hypocrisie. Et c'est la raison pour laquelle ils parlent de cette manière-là. Mais la différence entre Jésus et nous, c'est que lui peut prononcer ces paroles-là sans qu'il y ait de la haine. C'est la vérité. Mais la vérité sans haine. Tandis que nous, nous sommes incapables de prononcer de telles paroles sans qu'il y ait dans le fond de notre cœur des ressentiments qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas purs. C'est là la grande différence. Et comment pouvons-nous, à un moment donné, nous exprimer avec une apparence de dureté semblable sans pour autant enfreindre la loi de Dieu, enfreindre, disons, le commandement du Seigneur qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Voyez-vous, ça n'est possible que lorsque le Saint-Esprit a triomphé de nous-mêmes. Et avant même que nous puissions reprendre qui que ce soit par une parole, eh bien, nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur. Vous connaissez ce que Jésus nous a enseigné. Avant d'essayer d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton prochain, ôte la poutre qui est dans le tien. Ça veut dire que nous ne pouvons être efficaces dans les paroles. Nous ne pouvons être efficaces dans le moyen d'expression qui est à notre disposition, que Dieu nous a donné, que Dieu nous a confié, qu'à une seule condition, c'est que chaque jour nous lui demandions d'être remplis de son esprit. Car le diable essaie par tous les moyens de nous tenter et de nous faire tomber dans ses pièges par le moyen des paroles. Et c'est comme cela que par la calomnie, par la diffamation ou par une certaine hypocrisie, nous pouvons blesser et faire du mal à notre entourage. Le mensonge et l'hypocrisie, eh bien, c'est ce qui se trouve dans notre société à l'heure actuelle. Il est nécessaire prêter attention à ce qui va suivre maintenant. Parce que je le dis en étant profondément convaincu dans le fond de mon cœur. Il est absolument nécessaire que nous connaissions un réveil. Mais écoutez la suite. Un réveil de vérité et de loyauté. Parce que si nous ne connaissons pas un réveil de vérité et de loyauté, alors nous allons nous enfoncer de plus en plus dans un bourbier qui ne nous permettra pas de voir la gloire de Dieu. Je voudrais vous dire que dans ce monde, la vérité prend moindre importance. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué, nous venons de vivre ensemble une certaine période. Je vais faire allusion, et Dieu sait que je ne m'occupe pas beaucoup de politique, juste ce qu'il faut et ce que me demande la Bible dans ce domaine-là. Mais nous sommes tous les spectateurs du mensonge, de la tromperie, et certains personnages qui occupent une place élevée dans notre société sont capables, justement lorsqu'ils se trouvent dans l'embarras, eh bien, de prononcer des mensonges pour, en quelque sorte, se mettre à l'abri de l'accusation du fait qu'ils ne remplissent pas leurs responsabilités comme il convient. Et quand il s'agit de leur réputation, alors ils n'ont peur de rien et ils peuvent se justifier même en utilisant le mensonge. D'ailleurs, nous connaissons tous ce dicton, les moyens, ou plutôt la fin, justifie les moyens. Nous avons besoin de prendre garde à nos paroles. Nous avons lu un verset dans la série que nous avons trouvée dans la Bible ce matin, un verset où il est question d'honorer nos paroles, de faire attention à nos paroles. Et ici, je me sens un peu repris tout en vous apportant le message de la part du Seigneur. Car voyez-vous, c'est pas seulement au niveau de l'Église, mais c'est peut-être aussi dans le cadre familial. Ça peut être aussi dans nos contacts avec certains de nos amis qui ne sont pas forcément membres de l'Église. Et c'est surtout dans notre relation avec Dieu qu'il nous faut faire attention. Quand je fais une promesse, par exemple aux membres de ma famille, si je fais une promesse à mes enfants, à mon épouse, et pour l'épouse, à l'époux, bien, je dois veiller à ce que cela ne soit pas lettre morte, mais que je puisse l'accomplir. Parce que lui, Dieu, il entend tout, et il voit aussi si nous sommes vrais quand nous faisons une promesse. Quand nous parlons à nos amis, c'est la même chose. Quand nous parlons à Dieu, à plus forte raison, vous allez dire, mais nous sommes toujours en train de parler à Dieu. Oui, mais j'ai remarqué, c'est en ce qui me concerne, en tous les cas, c'est quand je suis dans un moment difficile que je peux dire à Dieu certaines choses et lui promettre aussi dans ma conduite, de faire ceci, de faire cela, parce que je suis dans la difficulté. Alors j'invoque son nom et je lui dis, viens à mon aide, Seigneur. Et comme une contrepartie, tout en oubliant que tout est grâce de sa part. Je peux lui dire, mais si tu fais cela, moi, je vais faire ça. Vous ne l'avez jamais fait, frères et sœurs? Je suis le seul être insensé au milieu de nous? Et nous savons tous que des fois nous avons parlé à la légère à Dieu. Mais lui, tout ce qui sort de notre bouche, il le prend en considération. Tout cela, eh bien, la Bible dit qu'il écoute lorsque des justes parlent même entre eux. Nous avons lu cela dans le livre de Malachie. Et il est dit qu'un livre de souvenirs se trouve dans le ciel où sont marquées toutes les choses que nous pouvons dire. Je suis étonné, quand en lisant la parole de Dieu, certaines choses sur lesquelles nous passons très rapidement sont marquées et puis elles m'interpellent. Ça m'interpelle de savoir que Dieu entend toutes mes paroles, que Dieu connaît toutes mes pensées. Ça m'interpelle aussi de savoir qu'il les marque dans un livre. Et même, savez-vous ce qui est écrit? Il est dit que les larmes que nous versons, elles sont aussi inscrites. Toutes les larmes que nous versons sont inscrites. Et un jour, pour tout cela, eh bien, il y aura des comptes à rendre. Et voyez-vous, d'une part, j'ai de la crainte, mais d'autre part, mais je suis infiniment reconnaissant au Seigneur. Parce que, par exemple, ce matin même, je pouvais noter dans la voix de certains, soit qu'ils priaient, qu'ils s'adressaient à Dieu, ou soit qu'ils lisaient la parole de Dieu juste au moment de la Sainte Cène, une forme d'émotion. Pourquoi ? Parce que, à ce moment-là, il y avait la prise de conscience de cet amour immense que Dieu a pour nous. Et ça fait du bien de savoir Dieu, cela. Il le note, il le voit. Notre Dieu n'oublie rien. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous devrions être plus attentifs à notre manière de nous comporter, d'agir, même dans nos relations avec les autres. Parole d'amour et de sagesse. Proverbe 31, le verset 26 que nous avons lu, eh bien, met en relief la sagesse de cette femme vertueuse, dont les paroles sont toujours une bénédiction pour son entourage et particulièrement dans le cadre de sa maison. Mais il y a aussi des paroles d'encouragement. Jusqu'ici, je vous ai parlé de paroles qui peuvent blesser. Mais il y a les paroles d'encouragement, les paroles d'amour, de sagesse. Par exemple, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, avons-nous lu, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la voie. Et j'ai découvert dans la parole du Seigneur, comme vous le connaissez aussi bien que moi d'ailleurs, Paul dit aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. » C'est une exhortation pour le cœur qui est angoissé, inquiet, préoccupé. Tous nous pouvons avoir des préoccupations pour le lendemain. Tous nous pouvons avoir des inquiétudes. Mais Dieu vient à notre aide par le moyen de sa parole et nous dit que nous pouvons tout lui dire. Il comprend tout et il apporte, lui, le baume dont notre cœur a besoin. Pour contrôler nos paroles, il faut déjà pouvoir dominer nos sentiments intérieurs. Et c'est la raison pour laquelle, tout en demandant au Seigneur de nous aider à ne prononcer que des paroles qui seront des formules de bénédiction pour notre entourage, il faut lui demander la grâce de pouvoir dominer tous nos sentiments, tout ce qui peut être à l'intérieur de nous-mêmes. Et je voudrais vous apporter quelques exemples tirés de la parole de Dieu. Dans le psaume 39 et le verset 1er, c'est le roi David qui s'exprime en ces termes. Et il dit, « Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. » Et dans le psaume 106 et le verset 33, il est question de Moïse. Et on voit les conséquences qu'il y a eu pour Moïse, qui a utilisé à un moment donné un langage d'irritation. Et voici ce que nous découvrons. Ils irritèrent Moïse, nous dit ce psaume-là, 106 au verset 33. Moïse fut pour eux et irrité, et quand il fut aigri dans son esprit par les paroles, et il s'exprima légèrement de ses lèvres. Regardez bien, il est dit Moïse s'exprima légèrement de ses lèvres. Quelle a été la conséquence? Voilà un homme que vous considérez, comme moi je peux le considérer, vraiment extraordinaire à tout point de vue. Un homme dont le témoignage de la Bible est qu'il n'y a pas quelqu'un d'aussi patient que lui. Pas un homme qui a été comme lui patient. C'est même paradoxal, parce qu'en même temps, nous connaissons quel était son caractère quelque peu impétueux. Mais cet homme-là, en accomplissant la volonté de Dieu, a manifesté une grande patience. Mais il y a eu un moment donné où, disons, il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase. Irritation produite par justement le comportement du peuple de Dieu. Et dans son irritation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de ses lèvres légèrement. Vous savez ce qu'il a fait. Et au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher et il s'est exprimé d'une manière légère. Conséquence, Dieu lui dit, tu n'entreras pas dans le pays de la promesse. Terrible, n'est-ce pas? Terrible. Oh, je vais vous dire, il n'a rien perdu en fait, vous savez, Moïse. Parce que Dieu l'a fait monter sur le sommet de la montagne, lui a fait voir le pays, il a pu le contempler de loin, de vous à moi. Il était beaucoup mieux avec Dieu dans le ciel que sur la terre et dans le pays de la promesse avec le peuple. Vous ne croyez pas? Donc Dieu sait ce qu'il fait, mais en même temps, quel avertissement pour nous. Moi, des fois, je me suis senti révolté à l'intérieur de moi-même en lisant ces textes de l'Écriture. Je me suis dit, c'est pas possible quand même. Une seule faute est privée d'entrer dans le pays de la promesse. Tout cela est comme un avertissement pour nous. Non, nous ne devons pas être légers. Les chrétiens ne doivent pas être légers. Et je profite de l'occasion pour dire, quoique je n'ai jamais remarqué cela parmi nous, mais je le dis quand même, jamais un authentique chrétien, un authentique enfant de Dieu ne devrait être ni vulgaire, ni grossier. Parce que c'est la grâce que le Seigneur nous accorde par son esprit d'être différent de tous ceux qui sont dans ce monde. Je voudrais ajouter encore un point, et puis j'en aurai fini. Vous savez, quand la Bible nous dit, et nous avons lu ce verset, que c'est un danger que de répondre avant d'avoir écouté. Eh bien, il y a des exemples dans la parole de Dieu. Il y a un homme qui s'appelle David qui est tombé dans ce piège-là. Vous savez, comme moi, que David a traversé des moments aussi difficiles. Il a dû fuir le royaume à cause justement de, non seulement de la haine de Saül, ça c'était un point, mais il y a eu aussi ce tragique événement, la révolte de son propre fils, qui l'a amené à prendre la fuite. Et quand il est parti, bon, il y a toutes sortes de personnages qui sont venus vers lui. Mais j'aimerais simplement vous apporter le témoignage de l'un de ces personnages qui s'appelle Tsiba. Celui-là, c'était un serviteur de Jonathan, vous savez, l'ami de David. Et David, un jour, a fait une promesse à Jonathan. Voyez comme quoi les promesses doivent être tenues. Et il a dit à Jonathan, qui lui avait demandé cette grâce, qu'aucun de ses descendants serait traité comme généralement un roi montant sur le trône faisait pour les descendants de son prédécesseur. Et il a dit, je veillerai sur eux. Et il se trouve que Jonathan avait un fils qui était perclus des deux pieds. Vous le connaissez? Il s'appelle Mephibosheth. Et Mephibosheth, eh bien, il a obtenu la grâce. Et David l'a placé à sa table. Il a mangé avec lui tous les jours. Il a été entouré de sa miséricorde, de sa grâce. David a eu un comportement extraordinaire avec Mephibosheth. Mais le serviteur de Jonathan, qui accompagnait toujours Mephibosheth, quand David a dû prendre la fuite, il est allé vers David. Et vous savez, il a pris des ânes, il a pris beaucoup de vivres, il a pris du vin, il est allé vers le roi David. Et quand David, tout en fuyant, a vu arriver Tsiba, il lui a dit, mais c'est pour qui tout cela? Et l'autre, avec une grande fierté, lui a dit, mais c'est pour toi, les ânes, ça va servir au transport, justement, de tous ceux qui sont avec toi. Et tous les vivres, c'est pour les jeunes gens qui t'accompagnent. Et le vin, c'est pour que vous soyez désaltérés dans le désert. Je me demande si on est désaltérés dans le désert avec le vin. Mais enfin, c'est ce que dit la Bible. Et David a regardé cela. Et dans sa confusion, il a dit, mais comment ça se fait que Mephibosheth ne t'accompagne pas? Où est-il? Et vous savez ce qu'a répondu le serviteur? Ah ben, lui, il a eu peur que, justement, il perde tous les avantages. Il a eu peur que, de nouveau, eh bien, tu sois pris par des sentiments mauvais et que, finalement, toute la grâce qui a été son partage soit oubliée. Il était en train de calomnier. Il était en train de mentir. Et David ne l'a pas vu. Il s'en est pas rendu compte. Et il a dit, eh bien, c'est simple. Tout ce que possède Mephibosheth, c'est à toi. Voyez-vous, il a parlé avec précipitation. Il a parlé trop rapidement. Puis finalement, David, il est revenu. David a retrouvé son autorité. Il a retrouvé son règne. Et là, Mephibosheth est arrivé. Mais vous savez, la Bible dit, c'est curieux de lire cela, il est dit, depuis le jour où David était parti, eh bien, il avait laissé sa barbe, n'avait pas pris soin de ses cheveux, n'avait pas changé ses vêtements, il était dans un état pitoyable. Vous vous rendez compte un peu? Comme vous seriez drôle ce matin si pendant des semaines vous ne vous étiez pas rasé, si vous ne vous étiez pas peigné, si vous ne vous aviez pas changé de vêtements, bah dites-moi, qu'est-ce que ça sentirait mauvais ici? Et Mephibosheth, il arrive devant David comme ça, tout crasseux, tout minable, il est là, comme ça, dans cette attitude, il prouve donc par là qu'il avait une grande peine. Quand David est parti, il a eu une grande peine. Et maintenant, alors, David lui pose la question, il lui dit, mais pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas suivi? Pourquoi tu n'étais pas avec moi? Sous-entendu, alors que moi j'ai pris soin de toi, ma grâce a agi en ta faveur. Et Mephibosheth lui dit, mais mon serviteur m'a trompé et il m'a calomnié à tes yeux. Et là, David, d'un seul coup, se rend compte, trop tard. Et il dit, eh bien, vous partagerez les biens. Vous voyez, il avait parlé avec légèreté. Mes frères et sœurs, quand nous entendons certaines choses, prenons soin de bien vérifier si ce que nous entendons au sujet de quelqu'un, qui que ce soit, est vrai. Parce que parfois, nous pouvons prononcer des sentences d'une manière trop superficielle et trop rapide, et puis ensuite, nous le regrettons. Oh, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre dans l'amour, dans la loyauté, dans la vérité, dans la vérité. C'est vrai, et j'insiste là particulièrement, parce que l'amour doit toujours être pratiqué dans la vérité. L'amour sans vérité, eh bien, c'est de la sensiblerie, et la vérité sans amour, c'est de la dureté. Que Dieu nous vienne en aide, pour qu'il nous apprenne jour après jour à avoir sa grâce sur notre vie agissante, et qu'en nous rappelant de tout ce qu'il a été pour nous et de son comportement à notre égard, nous puissions, nous à notre tour, eh bien avoir le contrôle de notre vie par l'exemple qu'il nous a donné. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons serrer nous aussi ta parole dans notre cœur, te demandant de veiller sur nos lèvres, et comme David te l'a demandé, mets une garde à notre bouche, pour que, Seigneur, il n'y ait pas des choses qui puissent blesser. Seigneur, nous sommes conscients de l'avoir fait tant de fois. C'est la raison pour laquelle, devant ta parole, et en cet instant même avec mes frères et sœurs, nous nous humilions et te demandons pardon pour toutes les fois où cela a été notre partage, soit en famille, soit entre amis, soit entre frères et sœurs. Mais Seigneur, nous sommes conscients que rien ne t'échappe. C'est pourquoi veille sur nos vies, s'il te plaît, et ramène-nous dans la voie de la justice, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous nous attendons à toi. Et nous nous recommandons à ta grâce, à toi la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen.